2. Alexandrie était une ville cosmopolite. Tandis que les cités de la Haute Égypte et de l'Heptanomide avaient conservé le caractère national, dans le Delta, la civilisation hellénique s'était greffée sur la civilisation égyptienne, ou plutôt elle s'y était juxtaposée. Les lois et décrets étaient rédigés dans les deux langues. Le sacerdoce, le gouvernement, la police, les tribunaux, l'administration appartenaient par moitié aux Hellènes et aux indigènes. L'armée se composait de mercenaires grecs et gaulois, de bandits cyliciens, d'esclaves romains fugitifs. À Alexandrie, où depuis plus de 2 siècles s'étaient établies d'innombrables colonies, les indigènes, groupés de préférence dans la vieille ville égyptienne appelée Rakotis, formaient tout au plus le tiers de la population. Les Juifs, qui habitaient un quartier spécial, où ils avaient leur ethnarque et leur sanhédrin, étaient dans la proportion de 1 à 3. Du phare au Sarapéum, de la porte de la nécropole à la porte canobique, on rencontrait autant d'étrangers que d'Égyptiens. C'était une foule bruyante et bigarrée de Grecs, de Juifs, de Syriens, d'Italiotes, d'Arabes, d'Illyriens, de Perses, de Phéniciens. Dans les rues et sur le port, on parlait toutes les langues. Dans les temples, on sacrifiait à tous les dieux. En cette Babel, chaque race apportait ses passions. La population d'Alexandrie, qui s'élevait à 320 000 habitants, sans compter les esclaves, était aussi turbulente que celle des autres villes d'Égypte, était tranquille et résignée. Pendant les règnes des derniers Lagides, la plèbe alexandrine secondait les révolutions de palais, espérant trouver sous de nouveaux souverains plus de liberté et moins d'impôts. Ptolémée XI, Aulette, mourut en juillet 51 avant Jésus-Christ. Il laissait 4 enfants. Par son testament, il désigna, pour lui succéder au trône, sa fille aînée Cléopâtre et son fils aîné Ptolémée. Selon la coutume égyptienne, le frère devait épouser sa sœur. À la mort du roi, Cléopâtre avait 16 ans, Ptolémée en avait 13. Le gouverneur du jeune Ptolémée, l'eunuque Potin, était un ambitieux. Maître de l'esprit de son élève, il comptait diriger les affaires de l'Égypte sous le nouveau règne. Mais il ne tarda pas à s'apercevoir que Cléopâtre ne laisserait ni lui ni Ptolémée gouverner l'État. Orgueilleuse et volontaire, Cléopâtre était en outre habile, intelligente et très instruite. Elle parlait 8 ou 10 langues, dont l'égyptien, le grec, le latin, l'hébreu, l'arabe, le syriaque. Comment admettre que cette femme, si fière et si bien douée, abdiquerait sa part de souveraineté au profit d'un enfant mené par un eunuque? Ou Cléopâtre se débarrasserait de son frère, ou, si elle se résignait à vivre avec le jeune roi, elle acquerrait bientôt un empire absolu sur lui. Elle serait la tête de cette diarchie. Potin le comprit, et il mit tout en œuvre pour perdre la reine. Il commença par provoquer des rivalités parmi les ministres et les grands officiers de la couronne. Puis, quand la dissension fut au comble dans le gouvernement entre les partisans du roi et ceux de Cléopâtre, il souleva contre la jeune reine le peuple d'Alexandrie. Il accusait Cléopâtre de vouloir régner seule. Dût-elle faire appel à l'intervention armée des Romains? Elle avait, disait-il, arrêté ce plan avec le fils aîné du grand Pompée, C.N. Pompée, qui, de passage à Alexandrie en 49, y était devenu son amant. L'émeute grondait aux portes du palais, et la connivence de Potin et du jeune roi avec les chefs de l'insurrection ne pouvait échapper à la perspicacité de Cléopâtre. Elle quitta Alexandrie, accompagnée de quelques fidèles. D'ailleurs, la fugitive ne se considérait point comme vaincue. Elle ne renonçait pas si facilement à cette couronne d'Égypte qu'elle avait déjà portée 3 ans. Bientôt, on apprit à Alexandrie que Cléopâtre avait levé une armée aux confins de l'Égypte et de l'Arabie et qu'elle marchait sur Péluse. Le jeune roi réunit ses troupes et s'avança à sa rencontre. Le frère et la sœur, l'époux et la femme, se trouvaient prêts à combattre avec leurs armées aux environs de Péluse, lorsque l'illustre vaincu de Pharsale vint demander asile aux Égyptiens. Pompée croyait pouvoir compter sur la reconnaissance des enfants de Ptolémée Aulète, car c'était à son instigation que 7 ans auparavant, Gabinius, proconsul de Syrie, avait rétabli ce roi sur son trône. Il est vrai qu'après Pharsale, Pompée était désarmé et César tout-puissant. En secourant un fugitif, dont on n'avait plus rien à attendre, on risquait de s'attirer la colère de César. Potin et les autres ministres du jeune roi n'hésitèrent pas. Ils accueillirent Pompée, mais ce fut pour le faire égorger quand il mit le pied sur la terre d'Égypte. Sa tête, embaumée avec l'art savant du pays, fut présentée à César lorsque celui-ci, qui poursuivait Pompée, débarqua à Alexandrie. César détourna les yeux de ce hideux trophée et reprocha vivement leur crime à Potin et à Achillas. Sans doute, les deux misérables ne se troublèrent pas à ces reproches. Ils estimaient avoir rendu un grand service à César en le délivrant de son plus puissant ennemi. Ils avaient assez la connaissance des hommes pour comprendre que, Pompée mort, la magnanimité était facile à César. César apprit bientôt les démêlés de Ptolémée et de Cléopâtre. La fuite de celle-ci sous la menace populaire, la bataille imminente entre les deux armées concentrées près de Péluse. La politique romaine avait toujours été d'intervenir dans les querelles intestines des États. Cette politique d'intervention était d'autant plus à l'ordre du jour pour César, relativement à l'Égypte, que sous son premier consulat, Ptolémée Aulète avait été déclaré allié de Rome, et que ce roi, dans son testament, conjurait le peuple romain de faire exécuter ses dernières volontés. Un autre motif, qu'il ne mentionne pas dans ses commentaires, engageait César à s'immiscer dans les affaires de l'Égypte. Créancier à peu de frais du feu roi, il avait à réclamer de ses héritiers le paiement d'une forte somme. Il ne s'agissait pas de moins que de 7 050 000 sesterces, qui restaient dus sur les 33 000 talents que Ptolémée s'était engagé naguère à payer à César et à Pompée, si, par l'appui des Romains, il recouvrait sa couronne. Potin, cependant, estimait qu'il avait assez fait pour César en lui offrant la tête de Pompée. Il le pressait de se rembarquer et d'aller où l'appelaient des affaires bien autrement importantes pour lui que la guerre de Ptolémée et de Cléopâtre. Dans le pont, d'où Pharnace chassait son lieutenant Domitius, à Rome, où Caelius soulevait la plèbe. Aux réclamations de César, il répondait que le trésor était vide. À ses offres d'arbitrage entre les héritiers de Ptolémée, il objectait qu'il ne convenait pas à un étranger de s'immiscer dans cette querelle, qu'une telle intervention soulèverait l'Égypte. À l'appui de ces paroles, il rappelait que le peuple d'Alexandrie, regardant les faisceaux portés devant César comme attentatoires à la dignité royale, s'indignait de cet appareil. Que chaque jour il y avait des commencements d'émeutes, que chaque nuit il y avait des soldats romains assassinés, que la population alexandrine était bien nombreuse, et que l'armée de César, 3 200 légionnaires et 800 cavaliers, était bien petite. Mais ses refus, ses conseils, ses quasi-menaces ne pouvaient rien contre la volonté de César. À bout de prières, il commanda. Il ordonna à Potin d'inviter formellement en son nom Ptolémée et Cléopâtre à licencier leurs armées et à venir exposer leurs différends devant son tribunal de consul. L'eunuque dut obéir. Mais rusé autant que César était tenace, il pensa à faire servir cette intervention, qu'il redoutait d'abord, au succès de ses projets. Dans ce dessein, il transmit à Cléopâtre l'ordre de César de licencier ses troupes, mais sans lui dire qu'elle était attendue à Alexandrie. Et il écrivit à Ptolémée de se rendre sur le champ auprès de César, tout en conservant ses soldats sous les armes. Potin comptait de la sorte et se délivrer de l'armée de Cléopâtre et attirer au jeune roi la faveur de César, puisque seul des 2 héritiers d'Aulète, cités par le consul, Ptolémée allait déférer à cette invitation. Peu de jours après, Ptolémée arriva en effet à Alexandrie. Il fit à César 1000 protestations d'amitié. et soutenu dans ses assertions par Potin, Achillas et les autres ministres, il exposa le différend qui existait entre lui et Cléopâtre en mettant tous les torts du côté de celle-ci. César, cependant, ne se laissait pas convaincre si aisément. Potin avait cru que l'absence de Cléopâtre irriterait César contre elle. Mais César ne pouvait admettre que la jeune reine eût décliné par mépris son invitation de se rendre à Alexandrie. Il pensait plutôt que c'était quelque machination de Potin qui mettait obstacle à sa venue. Afin de s'en assurer, il dépêcha secrètement un envoyé à Cléopâtre qu'il savait toujours près de Péluse. La reine attendait avec impatience des nouvelles de César. Au reçu de son premier message, imparfaitement transmis par Potin, elle s'était empressée de licencier son armée. Cléopâtre était déjà pleine de confiance dans le grand capitaine qu'on appelait le mari de toutes les femmes. Elle comprenait cependant qu'il lui fallait voir César, ou plutôt qu'il fallait que César la vît. Or, les jours passaient, et l'invitation de se rendre à Alexandrie n'arrivait pas. Le second message de César parvint enfin. Cléopâtre apprit que César l'avait déjà mandé près de lui, mais que Potin avait pris ses mesures pour qu'elle n'en sût rien. Ses ennemis, la chose était évidente, ne voulaient point qu'elle eût une entrevue avec César. Maintenant que leur ruse était éventée, ils emploieraient la force. Sans doute ils étaient sur leur garde, et ils avaient donné leurs instructions. Si Cléopâtre voulait gagner Alexandrie par terre, elle tomberait dans les avant-postes de l'armée égyptienne cantonnée sous Péluse. Par mer, sa trirème royale n'échapperait pas au navire de Ptolémée en croisière devant l'entrée du port. Parvint-elle même dans Alexandrie, elle risquerait d'y être écharpée par la populace sur un mot d'ordre de Potin. Jusque dans le palais du roi où César habitait comme hôte de Ptolémée, c'est-à-dire avec une garde d'honneur égyptienne, la jeune femme pouvait être arrêtée ou tuée par les factionnaires. Cléopâtre, renonçant à entrer à Alexandrie avec l'appareil d'une reine, s'avisa de s'y introduire, non point seulement sous un déguisement, mais dans un ballot. Accompagnée d'un seul homme dévoué, le Sicilien Apollodore, elle s'embarqua près de Péluse sur une barque pontée, qui pénétra au milieu de la nuit dans le port d'Alexandrie. On accosta le quai devant une des petites portes du palais. Cléopâtre s'enveloppa dans un de ces grands sacs d'étoffe grossière, teints de plusieurs couleurs, qui servaient aux voyageurs à serrer les matelas et les couvertures. Apollodore l'y lia avec une courroie, puis, chargeant le sac sur ses épaules, il franchit la porte du palais, alla droit à l'appartement de César et déposa devant lui ce précieux fardeau. Aphrodite était sortie, radieuse, du sein de la mer. Cléopâtre sortait plus modestement d'un sac. Mais César n'en fut pas moins ému de la surprise et ravi de l'apparition. Cléopâtre, qui avait alors 19 ans, était dans la fleur de son étrange et séduisante beauté. Don Cassius appelle la reine d'Égypte la plus belle de toutes les femmes. Mais Plutarque, qui ne se contente pas d'une épithète pour la peindre, s'exprime ainsi. Sa beauté n'avait rien de si incomparable qu'elle provoqua l'admiration. Mais, par le charme de sa physionomie, la grâce de toute sa personne, l'attrait de son intimité, Cléopâtre laissait un aiguillon dans l'âme. Voilà le vrai portrait. Cléopâtre n'avait pas la beauté souveraine. Elle avait la suprême séduction. Victor Hugo disait d'une célèbre femme de théâtre, « Elle n'est pas jolie, elle est pire. » Ce mot, si suggestif, pourrait s'appliquer à Cléopâtre. Plutarque ajoute, et son témoignage est confirmé par Dion, que Cléopâtre parlait avec une voix mélodieuse, d'une douceur infinie. Ce renseignement est bien précieux au point de vue psychologique. Certes, ce n'était pas un des moindres attraits de la sirène du Nil que ce charme de la voix, don divin si rarement départi, pure et pénétrante caresse, ravissement de tous les instants. Ce premier entretien entre César et Cléopâtre dura vraisemblablement fort avant dans la nuit. Ce qui est certain, c'est que dès les premières heures du jour, César fit appeler Ptolémée et lui dit qu'il devait se réconcilier avec sa sœur et l'associer au trône. En une nuit, dit Dion Cassius, César était devenu l'avocat de celle dont il se croyait naguère le juge. Ptolémée résistait aux ordres peu déguisés du consul, lorsque Cléopâtre ayant été introduite, le jeune roi, fou de colère, jeta son diadème aux pieds de César et sortit du palais en proférant les cris « Trahison ! Trahison ! Aux armes !» La multitude s'ameut à sa voix et marche contre le palais. César, ne se sentant pas en force, il avait pu réunir seulement quelques manipules de légionnaires, monte sur une des terrasses et, de loin, harangue la foule. Il réussit à la calmer par ses promesses de faire tout ce que voudront les Égyptiens. En même temps, ses légionnaires, qui arrivent du camp, entourent le jeune Ptolémée, l'isolent de ses partisans et, avec toutes sortes de marques de respect, le font, bon gré mal gré, réintégrer le palais où il va servir d'otage à César. Le lendemain, le peuple fut convoqué sur la place publique. César, accompagné de Ptolémée et de Cléopâtre, s'y rendit en grand appareil avec une escorte de licteurs. Tous les Romains étaient sous les armes, prêts à réprimer la première tentative de sédition. César lut à haute voix le testament de Ptolémée Aulète et déclara solennellement, au nom du peuple romain, qu'il ferait respecter les dernières volontés du feu roi. En conséquence, les deux aînés de ses enfants devaient régner ensemble sur l'Égypte. Quant aux deux autres enfants du roi, il leur faisait don, lui, César, de l'île de Chypre et leur en déférait la souveraineté. Cette scène imposa aux Alexandrins. César, pourtant, redoutait un soulèvement. Il s'empressa d'appeler à Alexandrie des légions nouvelles qu'il avait formées en Asie mineure, avec les débris de celles de Pompée. Mais bien avant le temps où ces renforts pouvaient arriver, l'armée égyptienne de Péluse, sur des ordres envoyés secrètement par Potin, entrait dans la ville pour chasser les Romains. En même temps, la jeune sœur de Cléopâtre, Arsinoé, s'évadait du palais avec l'aide de l'eunuque, Ganymède, et au défaut de Ptolémée, toujours prisonnier de César, elle était acclamée comme fille des Lagides par l'armée et le peuple. Commandée par Achillas, cette armée comptait 18 000 fantassins et 2 000 cavaliers, et la population d'Alexandrie faisait cause commune avec elle contre l'étranger. César n'avait que 4 000 hommes et les équipages de ses trirèmes. Il se trouvait dans un extrême péril. Occupant avec cette poignée d'hommes les palais du Brucium, il était assiégé du côté de la ville par les soldats d'Achillas et la plèbe en armes, et sa flotte, qui se trouvait à l'ancre dans le port, y était comme prisonnière, puisque l'ennemi tenait les passes du taureau et de l'heptastade. Il redoutait même que cette flotte immobile ne tombât aux mains des Alexandrins, qui s'en seraient servis pour barrer la route de mer aux convois d'hommes et de vivres. César conjura ce premier danger en faisant mettre le feu à ses vaisseaux. Cet immense incendie gagna les quais et détruisit nombre de maisons et d'édifices, entre autres l'arsenal, la bibliothèque et l'entrepôt des blés. Les Égyptiens exaspérés se ruèrent à l'attaque, mais les légionnaires, aussi bons terrassiers que soldats intrépides, avaient transformé le Brucium en un camp retranché inexpugnable. Partout c'étaient des levées de terre, des barricades, des lignes de palanques. Le théâtre était devenu une citadelle. Les Romains subirent 20 assauts sans perdre un pouce de terrain. César parvint même à s'emparer de l'île de Pharos, position qui lui livrait l'entrée du grand port. Les Égyptiens s'imaginèrent qu'ils seraient victorieux si, au lieu d'une femme comme Arsinoé, ils avaient Ptolémée à leur tête. Ils firent dire à César qu'ils ne lui faisaient la guerre que parce qu'ils retenaient leur roi prisonnier, et que dès qu'il lui aurait rendu la liberté, il cesserait les hostilités. César, qui connaissait la mobilité d'esprit des Alexandrins, se laissa persuader. Il leur renvoya Ptolémée. Quant à son conseiller accoutumé, Potin, César avait surpris des lettres de lui à Achillas et l'avait livré au licteur. Dès que Ptolémée eut rejoint l'armée égyptienne, la guerre, loin de s'arrêter, reprit avec une nouvelle vigueur. Mais vers ce temps-là, arriva par mer à César un premier renfort, la 37e légion. On combattit sans avantage marqué jusqu'au commencement du printemps de l'année 47. On apprit alors que Péluse venait d'être emporté d'assaut par une armée qui s'avançait pour dégager César. C'était un corps auxiliaire que Mithridate, le Pergaméen, amenait de Syrie. Les Égyptiens menacés d'être pris entre deux ennemis, s'ils attendaient Mithridate dans Alexandrie, marchèrent à sa rencontre. Une première bataille, qui resta indécise, eut lieu près de Memphis. Mais quelques jours plus tard, César, qui avait lui aussi quitté Alexandrie, opéra sa jonction avec le corps de Mithridate. Une seconde bataille s'engagea. Les Égyptiens furent enfoncés et taillés en pièces. Le roi Ptolémée se noya dans le Nil. Après cette victoire, César rentra, à la tête de ses troupes, dans Alexandrie soumise. La plèbe turbulente de la grande ville, connaissant désormais le poids de l'épée romaine, reçut le consul avec des acclamations. Ainsi se termina la guerre d'Alexandrie, qui devait plutôt être appelée la guerre de Cléopâtre, puisque cette guerre, inutile à la renommée de César, nuisible à ses intérêts, indifférente à sa patrie, et où il faillit laisser et sa vie et sa gloire, il l'avait soutenue pour l'amour de Cléopâtre.